parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40 et nous commencerons la lecture à partir du verset 12. Ésaïe chapitre 40, le verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Gloire à Dieu. Je trouve que ce passage de l'Écriture que nous venons de lire ensemble est propice à redonner du courage à celui qui est le plus abattu, peut-être à celui qui croit que la situation dans laquelle il se trouve est inextricable. Nous trouvons ici toutes sortes d'éléments capables de nous encourager et de nous pousser à mettre notre foi et notre confiance dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, il y a des fois des paroles que nous pouvons prononcer qui ne sont que la démonstration parfois de ce manque de confiance que nous mettons en l'Éternel, notre Dieu. Ces paroles sont d'ailleurs inscrites ici dans le texte que nous venons de lire et dans les derniers versets de ce chapitre. Eh bien, il y a une question qui est posée. Dieu dit, « Pourquoi, Jacob, dis-tu ? Pourquoi, Israël, dis-tu ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Nous devons bien reconnaître que parfois, dans des heures sombres, eh bien, nous aussi, nous avons pensé que notre destinée, notre vie était cachée aux yeux de l'Éternel parce que nous n'arrivions pas à voir la solution que pourtant il prépare toujours. Car nous ne pouvons pas oublier qu'il y a un verset de l'Écriture qui dit que lorsqu'il a permis une épreuve, une difficulté, pendant notre existence, il a préparé aussi le chemin, le moyen par lequel on va en sortir. Notre Dieu est fidèle pour accomplir toujours sa parole en notre vis-à-vis de nous-mêmes et de nous sortir de toutes les situations les plus préoccupantes. Je suis étonné qu'Israël, que Jacob, eh bien, ait pu poser de telles questions et se demander « Est-ce que ma destinée est cachée aux yeux de l'Éternel ?» Je suis étonné parce qu'au commencement de ce chapitre, et je vous invite à le lire en entier à la maison, tranquillement, à tête reposée, Dieu a fait entendre des voix. Et au travers de ces voix, eh bien, il a voulu consoler son peuple. Il a voulu l'encourager. Peut-être faudrait-il que nous nous rappelions ensemble dans quelle situation ce peuple se trouvait. Je sais que personne au milieu de nous n'ignore qu'Israël a connu plusieurs formes de captivité. La plus longue, ce fut celle qu'il a connue en Égypte, représente pour nous cette délivrance que nous avons connue lorsque nous sommes sortis du monde pour entrer dans l'Église de Jésus-Christ par le moyen de la rédemption qui a été opérée par le Seigneur Jésus lui-même. Mais il a connu aussi une autre forme de captivité lorsque, comme conséquence de leur désobéissance, comme conséquence de leur péché, ils ont été amenés en captivité à Babylone. Et ils y sont restés, bien sûr, pendant 70 ans, selon ce qu'un prophète lui-même avait déclaré de la part de Dieu. Mais 70 ans, c'est très long. Et justement, il y avait des questions qui se posaient en eux. Et ils se disaient, est-ce que nous reverrons Jérusalem? Est-ce que nous retournerons dans notre pays? Est-ce que nous retrouverons la bénédiction d'antan? Dieu ne nous a-t-il pas oubliés? Ne nous a-t-il pas abandonnés à notre sort ici, en captivité, là, à Babylone? Et puis il y avait toute la puissance de l'armée des Babyloniens qui était là, comme pour les effrayer. Il y avait bien des obstacles à franchir avant de pouvoir retourner dans leur pays. Nous apprenons que entre Babylone et la Judée, il y avait au moins 30 jours de marche au travers d'un terrible désert. Il y avait des montagnes à franchir. Tout cela constituait des obstacles qui leur paraissaient insurmontables. Et ils se demandaient bien si un jour, eh bien, la délivrance arriverait. Pourtant, Dieu dit dans le premier verset de ce chapitre, « consolez, consolez mon peuple. Et il y a trois voix qui ont retenti. La première voix, elle proclame le pardon. La deuxième voix, elle proclame la liberté. La troisième voix, elle parle de la faiblesse humaine en comparaison avec la puissance extraordinaire de Dieu. Et puis en dernier ressort, eh bien, il fait une promesse et il dit « Dieu lui-même va être votre berger. Lui-même est le roi berger qui va vous conduire dans tous les sentiers de la vie, qui va prendre soin de vous. Il prendra les agneaux dans ses bras et il portera dans son sein, eh bien, les brebis. Il les conduira particulièrement celles qui allaitent. Il n'y avait que de bonnes choses. » Mais vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et la parole de Dieu, d'ailleurs, souligne que Dieu parle de différentes manières. Mais la question est posée, mais qui entend ce que Dieu dit? Et finalement, je voudrais reprendre chacune de ces voix qui apportait un élément de consolation à ce peuple. Je vous ai dit que la première voix, c'est « Annoncez-lui », c'est ça qui est dit, n'est-ce pas, au verset 2, « Annoncez-lui, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. » Et voyez-vous, c'est vrai que au sujet des conséquences de notre péché, nous avons besoin de réfléchir un instant. C'est vrai qu'il y a le pardon qui est accordé par Dieu. Et nous tous qui sommes ici, eh bien, nous pouvons louer le Seigneur parce que nous sommes conscients qu'à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, le pardon nous est acquis, l'assurance du salut de notre âme, de la vie éternelle, l'assurance qu'un jour nous serons avec lui dans le ciel, nous est acquis. Cependant, quand il y a le péché, quand il y a la désobéissance, il y a les conséquences pénales et puis il y a les conséquences naturelles. Permettez-moi de m'expliquer au travers d'un exemple tout simple. Prenons le cas de quelqu'un qui a l'habitude de s'enivrer et qui, à cause de cette ivresse dans laquelle il sombre d'une manière constante, eh bien, il cause un accident. Et peut-être même que l'accident est mortel et une autre personne va payer de sa vie sa propre folie à lui. Alors, il va y avoir les conséquences pénales. Les conséquences pénales, c'est quoi? C'est qu'il va être jugé, c'est qu'on va le mettre en prison, c'est qu'il va, durant pendant quelques années, eh bien, être enfermé, peut-être être obligé de faire certains travaux. Tout cela, c'est conséquences pénales, mais il y a les conséquences naturelles. Vous voyez, quelqu'un qui s'enivre d'une manière constante, permanente, eh bien, quelles seront les conséquences naturelles? Les neurones vont être quelque peu grillés, il va y avoir un dérèglement dans ce système nerveux. Il va y avoir aussi, comme autre conséquence, une main qui tremble. Toutes ces choses-là sont les conséquences naturelles. Et c'est vrai que Dieu, lui, est capable de pardonner. Écoutez ce qui est arrivé à David, un homme qui a commis, comme vous le savez, un grossier péché. Et il a supplié Dieu, il a dit « Lave mon cœur !» Il a supplié Dieu de le pardonner. Mais tant qu'il s'est tu, il est dit que ses os se consumaient à l'intérieur de lui-même. Puis un jour, la délivrance est venue, il a reçu l'assurance du pardon de ses péchés, et il a écrit ce merveilleux psaume que vous connaissez tous, où il dit « Heureux l'homme à qui la transgression a été remise », et on sent une joie immense dans son cœur. Cependant, les conséquences ont continué, et l'épée ne s'est jamais éloignée de sa maison. Cependant, Dieu utilise même les conséquences naturelles pour notre propre sanctification, Parce que, regardez, des fois, quand il y a une souffrance extrême dans notre cœur, que nous avons pensé à cause peut-être d'actes de désobéissance, d'une certaine culpabilité, que Dieu nous a mis à l'écart, nous a écartés ou lui-même s'est éloigné de nous. Il y a une souffrance qui vient dans notre cœur. Et dans la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crie, on cherche le Seigneur, on cherche vraiment qu'il se manifeste comme tout à nouveau. Et cette souffrance-là nous amène tout simplement, eh bien, à un autre degré de sanctification. Je crois que comme moi, vous avez tous expérimenté que les épreuves de notre vie et les conséquences de nos turpitudes, de nos inconséquences, nous ont amenés à faire des progrès dans le domaine de la sanctification quand nous les avons reconnus. Et cela, Dieu l'annonce à ce peuple. Ce peuple qui croyait que les conséquences allaient durer, Dieu lui dit « Non, je te pardonne ». Il y a un temps où Dieu nous fait vraiment goûter, toucher du doigt les conséquences de nos erreurs, mais il y a aussi un temps où il est capable de nous relever et capable de nous apporter sa bénédiction pour que toutes choses concourent à notre bien et que même les choses les plus négatives soient transformées en bénédictions dans notre vie. La deuxième voie, eh bien, elle disait « aplanissez le chemin ». Pourquoi aplanissez le chemin? Il dit que les montagnes elles-mêmes soient abaissées, que toute vallée soit exaucée. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand monarque, à cette époque-là, se déplaçait, il n'était pas rare que l'on envoie des messagers pour préparer le terrain, pour faciliter l'accès du monarque. Les routes elles-mêmes étaient réparées. On essayait de préparer le chemin où allait venir le monarque. Et d'ailleurs, ça a été le rôle qui a été attribué, comme vous le savez bien, parce que vous l'avez lu dans l'Évangile, à Jean-Baptiste, qui est venu pour préparer le chemin du Messie, et lui-même a, eh bien, réussi à faire ce rôle. Mais pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de nous tenir devant Dieu et de bien analyser. Est-ce qu'il y a une manifestation d'orgueil dans ma vie? Cette montagne qui s'élève, il faut qu'elle soit abaissée. Et peut-être, dans un autre sens, quelqu'un est tellement écrasé, humilié, qu'il a besoin de comprendre que le Seigneur est capable aussi, eh bien, de l'élever à un niveau qui n'est pas pour le glorifier lui, mais pour que Dieu lui-même soit glorifié en lui et au travers de lui. C'est la préparation pour un chemin de liberté dans une pleine sanctification. Et puis, la troisième voie, elle criait quoi? Elle criait « Toute herbe, toute vie d'homme est semblable à la fleur des champs. » Vous le lirez au commencement du chapitre. Elle tombe, elle se dessèche, elle tombe, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ça voulait dire quoi, ça? Écoutez bien, mes frères et sœurs, ce peuple qui était en captivité, pensait aussi à tous les héros de la foi qu'ils avaient connus, à tous ces hommes d'État qu'ils avaient connus, extraordinaires, qui avaient régné dans leur pays au temps de la gloire de Dieu se manifestant en leur sein. Et les prophètes, certains d'entre eux, bien n'étaient plus là. Peut-être qu'en captivité à Babylone, ils se posaient la question, mais où est le Moïse qui pourra nous conduire dans un nouvel exode? Où est le Josué qui pourra nous conduire au travers de certaines difficultés? Où sont les hommes d'État, les rois comme Ézéchias qui ont fait justement par la grâce de Dieu des œuvres remarquables et conduit le peuple au réveil? Où sont-ils? Ça vous fait penser, n'est-ce pas, à ce que nous-mêmes nous pouvons dire en disant « Mais où sont les héros de la foi ?» Et remarquez ce qui est dit. L'herbe sèche, elle meurt, elle disparaît, la fleur tombe. Mais écoutez la suite. mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que les promesses de Dieu sont toujours les mêmes et Dieu est toujours fidèle. Je vais vous dire un petit témoignage. Juste il y a quelques jours, avec mon épouse, nous avons passé une soirée exceptionnelle, tous les deux, en écoutant Mozart, la musique de Mozart. Hein ? C'était quand même un temps qui était formidable, parce qu'il y avait longtemps que je n'avais pas accordé un certain temps pour écouter une belle musique. De la musique, il y en a. Mais une belle musique, c'est un peu plus difficile à entendre. Et puis, nous avons écouté, il y avait là des virtuoses, des hommes avec, je dirais, des talents qui étaient remarquables. Et c'était vraiment bon de pouvoir écouter cela. Mais tandis que j'écoutais, je pensais à une chose. Vous voyez, eux étaient extraordinaires dans leur façon d'interpréter. Et je me disais, mais l'auteur lui-même, Mozart lui-même, quand il devait jouer, ça devait être encore quelque chose de plus merveilleux encore, plus extraordinaire. Et écoutez bien, j'ai pensé, mais il y a des quantités de violons, des quantités de pianos qui au cours des âges, depuis Mozart, ont interprété cette musique. Et tous ces violons ont disparu, tous ces violons sont à la décharge, tous ces pianos ont été démontés, ils n'existent plus. Mais la musique qu'ils interprétaient, elle, elle existe toujours. Voyez-vous, ceci veut dire que nous ne sommes que des interprètes, mais la parole de Dieu, elle est toujours là. Toujours aussi efficace. Le temps passe, les hommes disparaissent. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur reste toujours. Et il règne, et il est vivant. Et ce qu'il a dit, il est toujours prêt à l'accomplir. Alors quand ils ont entendu ça, le peuple, cette voix, qui leur disait, oui, effectivement, Moïse, Josué, tous ces hommes ont disparu, tous ces rois formidables ont disparu, ils ne sont plus là. Mais Dieu est toujours là. Et il dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Et regardez comment la quatrième voix retentit. Et il dit, et il vient le roi. Ah là, nous l'avons la bonne nouvelle. Nous savons que Jésus va revenir, qu'il va régner. Regardez pour Israël, quelle consolation. Je parle même maintenant de ce peuple, disons ce peuple en chair, le peuple d'Israël lui-même. Quelle espérance, c'est dommage que tous n'arrivent pas à discerner que cette prophétie va s'accomplir d'une façon formidable et que même si toutes les nations, eh bien, montent pour les détruire, la promesse de Dieu est là, le roi vient et le roi les délivrera. Mais nous aussi, nous avons cette espérance. Nous sommes pardonnés, nous marchons sur le chemin de la sanctification. Nous savons que même si les hommes formidables qui ont été pour nous des moyens de bénédiction dans le passé ne sont plus, le Seigneur règne et il va venir bientôt nous chercher. Alors maintenant, peut-être quelqu'un se trouve ici face à une situation difficile, à une épreuve particulière, à un moment sombre dans son existence. Alors, je voudrais lui rappeler ce que le prophète de la part de Dieu ici nous rappelle. Et il dit, comme si Dieu parlait, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ?» Vous savez, quand nous manquons de confiance, il faudrait parfois nous arrêter un peu et puis regarder aussi dans le livre de la nature. Dieu a écrit plusieurs livres. Il y a ce livre formidable. Il y a la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ, mais il y a le livre de la création. Et au travers de la création, Dieu nous parle, Dieu nous interpelle. Et j'imagine que peut-être le prophète s'est retrouvé là, au bord de la mer, cette grande mer bleue, peut-être dans un moment où la mer était d'huile, vous savez, dans un calme parfait. Peut-être aussi dans un moment où il y avait une grande tempête, vous savez qu'au moment où il semble que l'eau et le ciel sont confondus ensemble, il a regardé tout cela et d'un seul coup il réalise, mais toutes les eaux de toutes les mers, de tous les océans sont pour Dieu comme quelques gouttes d'eau dans un seau. Vous voyez la grandeur de notre Dieu ? Vous imaginez la grandeur de Dieu ? Et il dit, en regardant le ciel d'un seul coup, il dit, et le ciel, comment il l'a mesuré ? Et il dit, il l'a mesuré par le moyen de sa main. Vous voyez, comme nous, des fois, ça vous est jamais arrivé ? Moi, ça m'est arrivé, n'est-ce pas ? D'essayer de mesurer quelque chose. Et j'ai fait comme cela, comme ça, comme ça. C'est pas très juste. Mais lui, avec sa main, il a mesuré les cieux, ces cieux immenses. Je me suis perdu cet après-midi dans un moment de folie. J'ai voulu aussi repasser la grandeur de l'univers et j'ai réfléchi à certaines choses. Je me suis penché sur un point que, je dois vous dire, je n'avais pas bien saisi, pas bien compris. Vous voyez, même quand on arrive à 65 ans, on a beaucoup de choses à apprendre. Et il y a un terme que j'ai appris aujourd'hui, c'est ce terme, isostasie. Et vous savez ce que c'est l'isostasie ? C'est exactement ce qui est décrit ici par le prophète Ésaïe dans ce chapitre, quand il dit, mon Dieu, il a pesé les montagnes dans sa balance. Et je me suis dit, peser les montagnes dans la balance, une sacrée balance il faut, n'est-ce pas ? Et ça veut dire quoi, isostasie ? Ça veut dire même équilibre, stable partout. Je vais arrêter un instant. Il y a ici un champion de boules, vous le connaissez tous, hein ? C'est notre frère ici, Polito. Et un jour, dans sa maison, il m'a dit, ah, mais parmi les joueurs de boules, il y a des tricheurs. Ce n'est pas son cas, hein. Mais il m'a dit, certains ont réussi à piper, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on dit, les boules. Et il m'a expliqué, il faudra se méfier de lui, hein. Il m'a expliqué, et il m'a dit, on fait un trou dans la boule, on met du mercure à l'intérieur, on doit refermer comme cela, eh bien, elle ne roule pas de la même façon, on peut la faire arrêter, soi-disant, comme on veut. Eh oui, mais notre univers, lui, notre terre, lui, notre terre, elle n'est pas pipée. Et Dieu a fait les choses d'une façon formidable, de telle sorte que les scientifiques ont fait cette découverte que partout, partout, il y a un même équilibre stable. Alors là où il y a les montagnes, c'est compensé par ailleurs, jusqu'à 100 kilomètres en dessous de la côte terrestre par peut-être un certain vide. Enfin, je ne saurais expliquer ce que les scientifiques expliquent, mais en tous les cas, notre Terre, elle tourne vraiment rond. Et ça, c'est Dieu qui le tient dans sa main. C'est Dieu qui l'a fait. Vous vous rendez compte ? Dans sa balance, il a pesé les montagnes. Et puis moi, je me fais du souci pour une petite bricole dans ma vie. Je me fais du souci pour des problèmes d'ordre familial. Je me fais des soucis peut-être pour les problèmes de l'Église. Je me fais des soucis pour un tas de choses. Mais en comparaison de la grandeur de Dieu, d'un seul coup, je peux réaliser, mais quelle stupidité. Ce Dieu si grand, il pense à nous. Sa main a mis les montagnes en place. Sa main a tenu des gouttes d'eau qui étaient tous les océans du monde. Alors je réfléchis et je lève encore les yeux, et d'ailleurs c'est ce que fait le prophète ici, et il dit, mais regardez les étoiles, et d'un seul coup il nous dit, ces étoiles sont comme un troupeau de brebis aux ordres de l'Éternel. Il y en a des milliards, et la Bible dit, il les connaît toutes par leur nom, et ils obéissent toutes, comme une armée à ses ordres. Vous savez ça, c'est drôlement impressionnant. Moi, j'ai envie de dire ce soir, mais mes frères et sœurs, vous vous rendez compte le Dieu que nous avons ? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce Dieu ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est capable de faire ? Nous l'avons devant nos yeux, nous pouvons constater cela, tout cela est évident. Là, dans la Bible, cela est écrit dans... Je n'ai pas à trembler. Et en même temps, je me rends compte d'un coup de la folie des hommes qui pensent qu'ils peuvent faire des dieux comparables. Avez-vous remarqué la question qui est posée ? Avec qui me comparerez-vous, dit Dieu ? À qui me comparerez-vous ? Et il parle avec une certaine ironie de ceux qui fabriquent des idoles. Et il dit, bon, celui qui ne peut pas payer beaucoup, il va chercher un bois qui va résister, n'est-ce pas, au pourrissement, et il va faire lui-même une idole. Et puis, nous savons tous, il sera obligé de porter cette idole. Mais attention, frères et sœurs, nous imaginons toujours les idoles sous forme de statues, comme cela. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque nous nous forgeons une idée comme cela, dans notre esprit, de qui est Dieu, nous nous trompons. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut vraiment réaliser qui est Dieu. Voyez-vous, il y a quelque temps de cela, et peut-être avez-vous été mis au courant, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, il y a deux hommes qui ont écrit un livre soi-disant remarquable, et ça s'appelle « La Bible, la science », et il y a eu beaucoup d'éditions qui ont été consacrées, des missions télévisées qui ont été consacrées à cela, et j'ai entendu moi-même ces deux hommes parler. C'est vraiment très, très touchant en même temps pour nous. C'est un peu réconfortant. Et je me suis dit, c'est bien quand même que des hommes qui ont ainsi une telle intelligence soient capables de se prononcer en disant oui, oui, en ayant aussi des preuves d'après eux. Oui, il y a un Dieu qui a créé tout cela. Alors moi, je me dis, amen, à l'intérieur de moi-même. Mais en même temps, je me dis, mais... quelle imbécilité! Pardon de l'expression. Savez-vous pourquoi? Parce que même est-ce possible que l'on puisse démontrer Dieu à partir de certains faits matériels? Dieu est esprit. Comment est-ce que l'on peut apporter des preuves? D'ailleurs, nous savons ce qu'est la foi. Et en ce qui concerne la réalité de Dieu, c'est par la foi qu'on embrasse cela. Et je n'ai pas besoin de preuves particulières. C'est quand on croit que l'on voit la gloire de Dieu. C'est quand on croit que l'on voit Dieu intervenir. S'il y a des preuves pour essayer de mettre en évidence que Dieu existe, eh bien... il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Dieu est au-dessus de tout cela. Et mon but ce soir, c'était justement de mettre en relief que nous sommes stupides quand intérieurement nous posons des questions en disant « Est-ce possible que Dieu fasse pour moi, pour l'Église, pour le peuple, pour un tas de choses, ce que je voudrais voir ? Est-ce que c'est possible ?» Je répète ici ce soir, pour ce Dieu décrit dans ce passage, tout est possible. Mais la seule chose que nous avons besoin, c'est de reconnaître qu'il est Dieu souverain, qu'il fait ce qu'il veut, et que nous, nous devons nous soumettre à sa pensée. Et voyez-vous, là, il y a quand même quelque chose qui est encourageant pour nous tous à la fin. Il est dit, ceux qui se confient en l'Éternel... Et voilà la seule chose que nous devons faire les uns et les autres. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je voudrais dire ici à ce sujet quelque chose. En réfléchissant, je me suis dit, moi, j'aurais mis les choses à l'envers. Ils marchent, ils courent et ils volent. Mais là, il dit, ils volent. Il court et marche et ne se fatigue pas. J'aimerais simplement mettre en relief une chose. Vous savez, quand on regarde à certains sportifs, notamment dans le domaine du cyclisme, il y a des sprinteurs, mais ça ne dure que quelques minutes, hein, parce qu'ils ne peuvent pas, tout le long de la course, sprinter. Ils sont simplement capables de le faire quelques minutes. Je vais vous dire, on pourrait courir, mais pas très longtemps, surtout pas moi. Et je pense que beaucoup ici seraient comme moi. On peut le faire un petit moment, moi même pas un petit moment, parce que je m'effondre vite. Mais quelques-uns pourraient le faire. Et ensuite, marcher, ça c'est plus facile. Cependant, il faut se confier en l'Éternel pour être capable d'avoir nos forces renouvelées et de prendre le vol comme les aigles, de pouvoir courir et de pouvoir marcher sans se fatiguer. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Là, moi, personnellement, je suis grandement stimulé. Et je me dis, oui, si je suis abandonné à moi-même, je m'écroule, comme je viens de vous le dire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu fait la promesse que chaque fois que nous nous trouvons en face d'un défi particulier, vous pouvez vous trouver en face d'un défi particulier, d'une situation toute nouvelle et qui vous place devant une sorte de défi. Vous savez ce qu'il nous faut faire ? C'est lever les yeux vers ce grand Dieu et lui dire « Accorde-moi l'onction nécessaire pour accomplir ce que tu me présentes devant moi. » L'onction n'est pas seulement pour le pasteur, pas seulement pour les chrétiens, mais nous en avons besoin pour toutes les situations auxquelles nous devons être confrontés. Et nous disons alors, Seigneur, accorde-moi cela, je me confie en toi, j'ai besoin de toi. C'est pas moi avec mes forces, comme notre frère l'a fait remarquer au moment du chant tout à l'heure, qui pourrait réussir, je ne peux pas, mais je me confie en toi. Et l'onction de Dieu peut nous apporter la grâce de faire ce qu'il a placé devant nous et on s'aperçoit que jusqu'au bout et notre dernier souffle, Dieu ne changera pas. Et le jeune homme peut compter sur ses forces et il va bientôt s'effondrer, il va se fatiguer. L'adolescent, il est dit, il compte sur lui-même, sur sa jeunesse. Mais il va aussi s'effondrer, il va tomber. Il n'est pas dit que le vieux va faire cela, mais il dit simplement ceci, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Dieu est toujours le même. Comptez donc sur lui, mes frères et sœurs, et nous allons voir que le Seigneur, dans toutes les situations, saura se glorifier. Que Dieu nous aide et nous bénisse en cette soirée, et surtout pendant ce temps de prière. Faisons-le, non pas en priant d'une manière machinale, mais en priant vraiment de tout notre cœur, nous appuyant sur ses promesses, sur sa fidélité et sur sa grandeur, comme sur sa puissance.